France Culture.
Nous qui avons la possibilité intérieure de penser, nous ne pensons que si quelque chose nous donne à penser. Vous voyez l'appel au dehors. Ce quelque chose ne peut venir que du dehors. Il ne faudra pas forcer beaucoup pour dire. Et d'un dehors plus lointain que tout monde extérieur.
Deleuze retrouvé. 16 leçons de philosophie. David Lapoujade.
Grâce à certains auditeurs assidus, nous disposons d'un grand nombre d'enregistrements, des cours que le philosophe Gilles Deleuze a dispensés de 1971 à 1987 à l'Université de Paris 8. Ce sont certains extraits parmi les plus caractéristiques de sa pensée que nous vous présentons. Dans le cours du 22 avril 1986, consacré à l'œuvre de Michel Foucault, Gilles Deleuze interroge les définitions modernes de la pensée. Que signifie penser pour nous aujourd'hui? Pour répondre à cette question, Deleuze évoque successivement les œuvres de penseurs majeurs du XXe siècle, Martin Heidegger, Antonin Artaud, Maurice Blanchot et Michel Foucault, qui montrent, chacun à leur manière, que nous ne pensons pas du seul fait que nous en avons la possibilité. Il y a un paradoxe de la pensée moderne. C'est que nous ne devenons capables de penser que lorsque la pensée est confrontée à ce qui, au plus profond d'elle-même, est impensable. 15e épisode sur l'impouvoir de la pensée, de Heidegger à Foucault, cours du 22 avril 1986.
Je cite d'abord Heidegger. Je dis, si vous prenez, alors, autant prendre un texte précis, ce serait vrai pour toute l'œuvre de Heidegger. Mais de quoi s'agit-il, cher Heidegger? Il s'agit d'abord de la proposition « Penser vient du dehors ».« Penser vient toujours du dehors ». Le texte auquel je me réfère, c'est « Qu'appelle-t-on penser ?» C'est un texte splendide dès le début. Vous pouvez lire les premières pages, les 20 premières pages du texte. Vous y trouverez tout ce qu'il nous faut, là. Ça ne suffit pas de lire les 20 premières pages, mais vous y trouverez tout ce dont on a besoin. Penser vient du dehors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, nous avons la possibilité intérieure de penser. Et presque Heidegger dirait, la philosophie classique s'est toujours appuyée sur ceci, que nous avions la possibilité intérieure de penser. Mais invoquer la possibilité intérieure que l'être pensant a de penser, ça n'est rien dire sur ce qui lui donne à penser. Et nous ne pensons que si quelque chose nous donne à penser. Nous qui avons la possibilité intérieure de penser, nous ne pensons que si quelque chose nous donne à penser. Vous voyez l'appel au dehors. Ce quelque chose ne peut venir que du dehors. Il ne faudra pas forcer beaucoup pour dire. Et d'un dehors plus lointain que tout monde extérieur. Pourquoi? Parce que ce qui donne à penser, ce n'est pas quelque chose qui appartient à un monde extérieur quelconque. Pour ceux qui connaissent un peu Heidegger, ce n'est rien qui soit du domaine de l'étant. Ce qui donne à penser, c'est l'être de l'étant, c'est-à-dire le dehors. Un dehors plus lointain que tout monde extérieur. Sinon, nous avons la possibilité de penser. Mais cette possibilité reste éternellement vide. Ce que Heidegger traduit en disant « Oui, nous avons la possibilité de penser, celle même qu'invoquaient les philosophes classiques, celle même qu'invoquait le XVIIe siècle. Mais que nous en ayons la possibilité ne signifie pas que nous en soyons capables. » Capacité, c'est autre chose que possibilité. Le texte est splendide. L'homme peut penser en ce sens qu'il en a la possibilité. Mais cette possibilité ne nous garantit encore pas que la chose est en notre pouvoir. Je me rappelle une autre traduction que je préfère, là, mais qui change rien au texte. Cette possibilité ne nous garantit pas encore que nous nous en serions capables. Bon, nous ne sommes pas capables, ça veut dire quoi? Nous sommes capables si nous affrontons, nous devenons capables de penser si nous affrontons cela qui donne à penser et qui est plus lointain que tout monde extérieur. Mais ce qui nous donne à penser, si nous le rencontrons et si nous l'affrontons, là aussi, est-ce que nous le rencontrons, est-ce que nous l'affrontons? Célèbre est la réponse de Heidegger. Ce fut fait une fois, c'est les Grecs. C'est les Grecs qui l'ont affronté ce dehors, c'est-à-dire qui ont découvert l'être comme distinct de l'étant. Eh bien, si cela qui donne à penser est effectivement rencontré, alors nous devenons capables de penser. Et de penser quoi? Nous devenons capables de penser ceci, que nous ne pensons pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne pensons pas encore en vertu de la simple possibilité de penser. Ce qui donne à penser nous donne à penser quoi? Nous donne à penser que nous ne pensons pas encore en vertu de la simple possibilité que nous avons pensé. Si bien que le « nous ne pensons pas encore » et le « dedans », c'est cela qu'il y a dans notre pensée. Que nous ne pensions pas encore et le « dedans » de notre pensée. Comme dedans du dehors, en tant que le dehors donne à penser. Pourquoi? Parce que le dehors ne donne pas à penser sans se retirer par le même mouvement par lequel il se donne. C'est une fameuse chez Heidegger. Si bien que le dedans de ce dehors, c'est le « nous ne pensons pas encore ». Ce que Heidegger exprime dans une formule dont il a le secret. Ce qui donne le plus à penser dans notre temps qui donne à penser et que nous ne pensons pas encore. C'est le début splendide de... Qu'appelle-t-on penser? J'essaie de mettre l'accent. Je dirais que la pensée a cessé d'être en rapport avec, avec du pensable. Je dis que la pensée est mise en rapport fondamentalement. Mise dans un rapport essentiel avec quelque chose de non pensable et de non pensé. Nous ne pensons pas encore, si vous préférez, à la possibilité classique de penser, qui est la possibilité logique. Heidegger substitue une impossibilité là-dessus en deux mots, ontologique. Toute la philosophie classique s'est fondée sur la possibilité logique de penser. Voyez Descartes. Heidegger se réclame d'une impossibilité ontologique de penser. Et voici un auteur, je vais très vite... qui, à coup sûr, ne doit strictement rien à Heidegger. L'union avec Heidegger sera faite par Blanchot. C'est Artaud. Et de même que je dis sur la pensée, un des plus grands textes contemporains du XXe siècle est le « Qu'appelle-t-on pensée » de Heidegger. Un des plus grands textes, c'est celui d'Artaud. Aussi les lettres à Jacques Rivière. Et qu'est-ce que dit Artaud? La pensée ne fait qu'un avec un pouvoir vital. Ce n'est plus une impossibilité ontologique, c'est un pouvoir vital. Il appartient à la pensée de ne pas pouvoir penser, c'est mon drame, dit Artaud. Mais qu'est-ce que ça veut dire, son drame? Ça ne veut pas dire son cas clinique, puisque Artaud ne se vit pas ainsi. Ça ne veut pas dire son problème psychologique. Ça veut dire que son drame, c'est d'avoir atteint quelque chose dans la pensée qui se dérobe à la pensée même. Il ne suffit pas d'avoir la possibilité de penser. Il faut encore avoir le pouvoir vital de penser. Je dis, s'il y avait une comparaison différentielle marquant les différences, et la différence est fondamentale, ce que Heidegger, qui à cet égard se conduit encore comme un grand professeur de philosophie, présente comme l'impossibilité ontologique, devient conformément à Artaud un impouvoir vital. Mais si je cherche ce qu'il y a de commun, c'est l'impensé, c'est le dedans de la pensée. Et la pensée est fondamentalement en rapport, non pas avec du pensable, mais avec de l'impensé. Et vous voyez en quoi c'est très loin de la philosophie classique. La philosophie classique n'ignorait pas qu'il y avait de l'impensé. Mais pour la philosophie classique, l'impensé par nature, c'est ce qui a une autre nature que celle de la pensée. Par exemple, le corps. Par exemple, les passions, ce qui se dérobe à la pensée. Là, au contraire, dans ces formes du XXe siècle, l'impensé est ce qui est profondément co-naturel à la pensée. C'est ce qui est de la même nature que la pensée. C'est ce lointain comme le plus proche. Au point qu'il y a identité stricte entre la pensée et cette impensée. Elle est dans un rapport fondamental avec l'impensée. Et dans les mots et les choses, vous trouvez ce thème complètement repris, au point que vous ne savez pas si, à première vue, vous vous dites, c'est du Heidegger, suivant certaines expressions, c'est du Blanchot, c'est du Artaud. C'est du Artaud quand Foucault met l'accent sur le problème vital de la pensée. C'est du Heidegger quand il met l'accent sur le problème ontologique de la pensée. C'est du Blanchot lorsque il le met en rapport avec cette ligne du dehors. Bien. Mais merveille, c'est du Foucault. Et dire c'est du Foucault, c'est dire quoi ? Que lui aussi met son accent particulier. Et c'est à cela que je veux arriver, c'est à quelque chose qui n'a aucun équivalent ni chez Heidegger, ni chez Blanchot, ni chez Artaud. C'est quoi ? C'est que pour lui, le rapport du dehors et du dedans, le dedans étant toujours le dedans d'un dehors. C'est pas ça qui est original. Mais ce rapport chez lui, ou ce rapport entre la pensée et l'impensé. Comprenez ? Si la pensée, ça revient à dire, c'est l'amour. Si la pensée affronte ce dehors plus lointain que tout le monde extérieur, si la pensée affronte ce dehors, alors dès lors, ce qui est le plus proche de la pensée, ce qu'elle découvre comme son intérieur, c'est l'impensé. Mais chez Foucault, ce n'est, il me semble, et là je crois que ça touche quelque chose à quelque chose qui concerne toute l'œuvre de Foucault, ce n'est ni une impossibilité ontologique, comme chez Heidegger, ni un impouvoir vital, comme chez Artaud. Mais l'apport propre de Foucault, il ne l'a pas choisi, là, on n'est pas dans le domaine de la théorie, hein. C'est quelque chose qui engage la vie, ça. Donc la pensée aussi. C'est une espèce d'impuissance hallucinatoire. C'est une impuissance hallucinatoire qui va être au cœur de cette identité de la pensée et de l'impensée. Pourquoi ? je veux dire, chez Foucault, que le dedans soit par nature le dedans du dehors, signifie quoi ? Signifie une opération qui est celle des doubles. Le dedans, c'est le double du dehors. C'est ça, je dirais, l'accent singulier de Foucault. C'est avoir réinterprété un thème général qui est commun à lui, mais lui venant en dernier, à lui, à Blanchot, à Artaud, à Heidegger, avec des différences d'un auteur à l'autre, des différences fondamentales, c'est, je crois, l'avoir interprété aussi, dans la direction du double hallucinatoire. Le dedans comme étant le double du dehors. Curieux, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le dedans comme double du dehors. Et c'est par là, l'impensé comme double de la pensée. Et toute la fin des mots et des choses. Bien que souvent il y ait des échos d'Artaud, bien qu'il y ait... C'est le thème du double. C'est le thème du double qui est propre à Foucault et qui lui permet de réinterpréter ce qu'il a de commun avec Artaud, ce qu'il a de commun avec... Or, c'est là-dessus, je voulais que vous y réfléchissiez d'ici la prochaine fois, parce que c'est là qu'il faudra... Autant dire que lorsque la ligne du dehors fait un pli, elle produit des doubles. Et comprenez, c'est pas l'autre qui est un double de moi, c'est moi qui suis un double de l'autre. C'est pas le dehors qui est une projection du dedans, c'est le dedans qui est une intériorisation du dehors, un pli du dehors. Le double, c'est la pliure. Qu'est-ce que c'est le double comme pliure ? C'est ce qu'on appelle une doublure. Le dedans, c'est la doublure du dehors. Faire une doublure. Plier, c'est faire une doublure. Du coup, si l'on voit que peut-être Foucault redécouvre cela dans ses derniers livres, mais on se dit, mais bon Dieu, il n'a jamais cessé de parler de ça, en effet. Cette troisième dimension du pli conçu comme constitution du double et de la doublure. Plier, c'est faire une doublure. Pourquoi Foucault aimait-il Roussel ? Pourquoi est-ce que, bien plus, j'ai une hypothèse, ma seule hypothèse, c'est qu'il s'est toujours protégé de Heidegger par Roussel. C'est pour ça qu'il avait un rapport passionnel avec Roussel.
Vous êtes bien sur France Culture.